On va parler aujourd'hui très simplement du verbe « demander ». Luc, chapitre 11, verset 5. Jésus leur dit encore. Pourquoi encore ? Parce que toute cette première partie du chapitre 11 de Luc est consacrée à la prière, à la persévérance et à la réception du Saint-Esprit. Jésus vient de leur donner, suite à leur demande, « Enseigne-nous à prier », un résumé du Notre Père. Verset 5, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Oh, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, on est au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, comme quoi l'amitié a des grandes limites, mais bien sûr, il se lèvera à cause de son importunité. Parce que c'est quelqu'un qui est tenace, qui va aller jusqu'au bout. C'est ce genre de personne qui ne va pas lâcher le morceau. C'est ce genre de personne qui ne va rien lâcher tant qu'elle n'aura pas obtenu. Et Jésus dit, à cause de ce genre de caractère-là, je vous garantis qu'il va se lever. À cause de son importunité, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Si Jésus me dit « il faut que tu demandes », c'est que ce n'est pas si évident que ça pour ma nature humaine. On va en parler. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ce serait un bien mauvais père. Hein ? Il n'aurait absolument pas notre considération. S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson ? Ça ne me viendrait jamais à l'idée. Jamais de la vie. Jamais je donnerais un serpent à mon fils s'il m'a demandé du poisson. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit ça. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Mais jamais, hors de question. Si donc, méchant comme vous l'êtes, parce que c'est ma nature pécheresse, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père, on parle d'un Père, on parle du Papa parfait dans le ciel, à combien plus forte raison ton Père céleste te donnera le Saint-Esprit si tu lui demandes Amen. Cette première partie de Luc 11 concerne la prière, la persévérance illustrée par cette parabole des trois amis, la persévérance dans la prière, et Jésus conclut son enseignement sur la prière et sur la persévérance en mettant l'accent d'abord sur la bonté de Dieu, sur la personne du Père, parce que nous avons ô combien besoin de retrouver la dimension de la bonté de Dieu et d'avoir une vision qui ne soit pas faussée de notre Père céleste. Et il va terminer ensuite en braquant le projecteur sur le don du Saint-Esprit, d'où la nécessité évidemment de le chercher, c'est relié à cette parabole sur la persévérance, on voit ça ensemble tout de suite. Pourquoi Jésus termine cet enseignement sur la prière et sur la persévérance par la réception du Saint-Esprit ? Parce que le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. La meilleure chose qui puisse t'arriver, ce n'est pas un mari, quand bien même c'est légitime. Ce n'est pas une femme, quand bien même c'est légitime. La meilleure chose qui puisse t'arriver, ce n'est pas un nouveau travail, une augmentation, ce n'est pas une nouvelle maison, ce n'est pas un nouveau pasteur, ce n'est pas une nouvelle église. La meilleure chose qui puisse t'arriver, ce n'est pas des vacances à Bora Bora. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Il est le meilleur dans ma vie, il est le meilleur pour ma vie. Et Jésus passe directement à l'excellence du Père, il passe directement à la meilleure chose que le Seigneur veut donner, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors bien sûr, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume, la justice et tout le reste ». Je sais que tout le reste sera donné. Dans le tout le reste, il y a un mari, il y a une femme. Dans le tout le reste, il y a des biens. Dans le tout le reste, il y a l'abondance de Dieu, il y a sa générosité. Il y a un travail, il y a une maison. J'ai expérimenté tout ça. Mais tout ça, ça vaut rien. Rien, rien, rien en comparaison de la dimension de la présence du Saint-Esprit dans l'être intérieur. Pourquoi il a terminé avec le Saint-Esprit ? Parce que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est lui le cadeau avec un C majuscule. C'est lui la bénédiction avec un B majuscule. C'est lui le don le plus excellent. Et si Jésus, pardon, si Jésus a été obligé de mettre l'accent sur la bonté du Père, c'est parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui regardent le Saint-Esprit avec méfiance, comme un cadeau empoisonné. Ne serait-il pas le scorpion qui va apporter du venin dans l'église ? Ça va peut-être nous mettre un peu de bazar, tout ça. Il y a des gens, ils font, oh, il y a des gens qui pensent ça. Oh, il y en a beaucoup plus que ce que vous ne croyez qui pensent ça. Ne serait-il pas le scorpion qui va mettre du venin dans l'église ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir du bazar ? Est-ce qu'on ne va pas perdre le contrôle ? Est-ce qu'on va bien rester nous-mêmes ? Et beaucoup considèrent le Saint-Esprit comme, à défaut d'être peut-être un cadeau empoisonné, quelque chose dont il faut vraiment se méfier. Cette méfiance est une offense à la nature de Dieu. Jacques dit « Tout don excellent vient du Père, Père ». Des lumières chez qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement, ni aucune ombre de variation. Tout ce que Dieu est, est bon. Tout ce qu'il communique, tout ce qu'il donne, est bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. Il n'a jamais rien donné de mauvais. Lorsque Dieu donne Jésus, vous regrettez que Dieu ait donné Jésus ? Ben non. Il a donné le meilleur, n'est-ce pas ? Jésus, c'est le meilleur de Dieu. Lorsque Jésus s'est donné lui-même, il a donné le meilleur. Dieu a-t-il donné des choses qui ne soient pas bonnes ? Mais quand Jésus parle de ce cadeau, de ce don exceptionnel qu'est le Saint-Esprit, ben oui, parce que Dieu devient un Dieu bizarre tout à coup. Dieu me dit, je ne te laisserai pas dans ta misère, je ne te laisserai pas orphelin, je ne te laisserai pas dans tes incapacités, je ne te laisserai pas dans tes peurs, je ne te laisserai pas dans tes deuils, je ne te laisserai pas dans ta couardise, je ne te laisserai pas dans tes impossibilités, je ne te laisserai pas comme un orphelin, je ne te laisserai pas dans tout ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, je ne te laisserai pas dans tout ça, je vais te donner la dunamis, je vais te donner la personne toute puissante qui va te permettre de vivre une vie comme tu n'as jamais vécu et d'accomplir des choses que tu n'avais jamais faites avant. Quand vous invitez des amis chez vous, qu'ils viennent les bras chargés, qu'ils vous offrent un cadeau, vous faites quoi ? Vous appelez une équipe de déminage ? Non mais on ne sait jamais, hein ? Quelquefois qu'il y ait de l'anthrax à l'intérieur. Vos amis vous ont peut-être apporté un colis plein d'anthrax. Menace bioterroriste. Saint-Esprit, attention ! Menace biospirituelle ! Qu'est-ce qui va se passer dans l'église si jamais on vit la vie du Saint-Esprit ? Ben, si on vit la vie de l'esprit, il va y avoir un feu qui sera tellement puissant qu'il va se répandre jusqu'aux extrémités du département. Voilà ce qui va se passer. Et quand on m'offre un cadeau, quand mes amis m'offrent un cadeau, je ne suis pas négligent, je ne vais pas leur dire ouais, pose ça là-bas, on verra plus tard, j'ai pas le temps. Non, vous dites oh, merci, fallait pas. Puis en même temps, en vous-même, vous dites oh si, il fallait quand même. Oh merci, il fallait pas, c'est la politesse. Oh merci, il fallait pas. Je peux l'ouvrir ?
Ben évidemment.
Ou alors quand vos amis vous apportent un cadeau, vous ne faites pas les suffisants. Non, non, merci, ça va aller. Pas besoin de tes présents. On a tout ce qu'il faut à la maison. Garde ta bouteille de vin. Vivre rempli du Saint-Esprit, c'est la vie chrétienne normale. Et c'est la plus belle chose et la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant de Dieu après être devenu chrétien, après avoir rencontré Jésus-Christ. C'est de pouvoir trouver le Saint-Esprit, l'autre moi-même, dit Jésus, celui qui m'est identique en tout point. C'est Jésus qui te le promet, c'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui te le, Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui te le donne, qui te l'accorde. On voit dans les textes que le Saint-Esprit procède autant du Père que du Fils. Il y a une cohésion parfaite dans la Trinité, je vous l'avais expliqué au début des messages sur le Saint-Esprit. Il vient autant du Père que du Fils, c'est un don, c'est un cadeau. Et mais pourquoi, j'ai jamais compris ça, pourquoi on a plus confiance dans les hommes que dans le Dieu du ciel? C'est incroyable ça. Là, le 1er novembre, tous les ans j'ai un anniversaire exceptionnel. La nuit du 31 octobre au 1er novembre, c'est la nuit où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et ça va faire ma 12e année. Et ça a changé toute ma vie. Et alors que j'étais passé en 2005-2006 par des périodes de profond désert spirituel, ecclésial, professionnel, il y avait toutes sortes de choses qui écrasaient mon cœur, ma vie, qui faisaient qu'elle était terne, qu'elle était monotone. Je savais que j'étais en train de passer à côté de l'essentiel, que j'étais en train de rater ma vie, même si j'allais faire le beau avec ma guitare dans l'église, je savais que j'étais en train de rater ma vie. Et puis j'ai commencé à reconsidérer les promesses de Dieu, à considérer tout ce que j'avais méprisé, toute ma négligence, toute ma suffisance. Et alors que pendant des jours et des jours, j'étais là, je cherchais Dieu, et puis que je lui demandais, je cherchais la présence du Saint-Esprit, je cherchais le parler en langue, je cherchais sa plénitude, je cherchais vraiment l'Esprit de Dieu. Dans mon cœur, j'avais une espèce de tristesse, c'était quand même lourd, j'arrivais pas à me réjouir du cadeau que Dieu voulait me donner. C'était lourd dans mon cœur, puis il y avait un peu cette tristesse, je me disais, mais je demande, mais il se passe rien du tout, quoi. Et puis il y avait cette parole que je comprenais pas. Tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, je me suis battu avec ce texte pendant des heures et des jours. J'étais là, je cherchais, je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne l'ai pas, croyez que tu l'as... Ça veut dire quoi, Seigneur? Je ne l'ai pas. Tu me dis crois, mais je... Oui, j'y crois, d'accord. Il ne se passe rien, je ne l'ai pas. Et puis pourquoi tu dis croyez et vous le verrez s'accomplir? Il se passe quoi, là? Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait un décalage normal entre ce qu'il y a dans le ciel, ce qui est prêt dans le ciel pour moi, et la manifestation concrète sur cette terre. Et entre les deux, il y a la persévérance. Entre les deux, il y a la parabole des trois amis. Entre les deux, il y a la hardiesse, il y a l'audace, il y a le fait de faire valoir les promesses de Dieu. Il y a ma foi mise en action, il y a ma persévérance, il y a mon jusqu'au boutisme, il y a non, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Peu de temps avant, avec Anne, on avait sollicité un crédit pour acheter notre maison. Et le Seigneur me remet cet épisode dans la tête. Et alors que j'étais en train de prier, me revient fortement toute la conversation que j'ai eue avec la conseillère. Cette femme, elle n'est pas fiable comme Dieu. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'aime pas. Ce qu'elle veut, c'est juste me filer de l'argent pour que ramasser plein d'intérêts. D'accord, il n'y a pas de relation filiale de père à enfant. Cette femme, elle m'a donné un coup de téléphone. Elle me dit, c'est bon, monsieur Brion, vous avez votre prêt. Et le Seigneur me dit, mais... Cette femme que tu connais pas, quand elle t'a dit vous avez votre prêt, est-ce que l'argent était sur ton compte? Ben non. J'avais juste un morceau de papier qui me disait ça arrive. Et là, j'ai compris, et ça a changé toute ma façon de chercher la personne du Saint-Esprit, parce qu'à lieu de dire « Ah Seigneur, je suis un misérable, remplis-moi, donne-moi ta vie, donne-moi ton esprit, fais ci, fais ça, et puis pourquoi ça ne vient pas, et pourquoi je ne suis pas rempli, pourquoi il ne s'est pas encore passé ça dans ma vie, et pourquoi depuis des années il se passe autant de choses. » J'ai dit « Ah Seigneur, merci, la promesse est pour moi, Seigneur, je te loue, je te bénis. » Et toute ma recherche a changé, et quand ma recherche et mon cœur en réalité ont changé, le Seigneur m'a rempli de son esprit. Pourquoi est-ce qu'on fait confiance aux hommes si facilement et on se fait entourlouper à tous les coins de rue et quand le Seigneur nous dit quelque chose, on réfléchit. À ceux qui le lui demandent. Demandez et vous recevrez. C'est un principe biblique. Oui, je dois le recevoir, mais il faut que je le demande. Oui, il veut me le donner. Oui, mais il faut que je le demande. Alors pourquoi demander ? Regardez rapidement. Demander, mine de rien, il y a des gens, plus que d'autres, ils détestent demander. Je sais que tu as besoin de ça. Tu as été demandé au frère ou à la sœur une telle qui pourrait t'aider ? Va voir de ma part. Voilà. Oh non, moi je demande pas. Quand je demande... C'est mon ego qui est touché. Parce que je reconnais mon état de faiblesse. Parce que je suis obligé de reconnaître mon incapacité. Parce que je suis obligé de reconnaître que j'y arrive pas. Et l'homme est naturellement indépendant. Et nous, on veut tout gérer. On veut gérer nos problèmes, on veut gérer nos tempêtes, on veut gérer notre vie, on veut gérer nos parents, on veut gérer nos enfants, on veut gérer nos églises, on veut les pasteurs veulent gérer leurs chrétiens. On veut tout gérer. Demander, c'est reconnaître que sans toi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Sans ton esprit, Seigneur, ma vie, elle est terne, elle est morte. Ma vie, elle est insipide. Ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Demander, c'est reconnaître que sans lui, je n'y arriverai pas. C'est que je ne suis rien, que nous ne pouvons rien. Je me réjouis, le mardi soir, il y a de plus en plus de monde aux réunions de prière. Et je vous en supplie, je vous appelle solennellement, il faut que ça continue, il faut que ça grandisse, il faut que ça vienne, il faut qu'on soit un, il faut qu'on persévère ensemble, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, parce que l'Église de Jésus, ce n'est pas Stéphane Brion qui va la construire. L'Église de Jésus, bien qu'elle soit, oui, l'Église de Jésus reste une œuvre de l'Esprit. Elle est née par la puissance du Saint-Esprit. Tout lui est communiqué, elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle est bâtie par le Saint-Esprit, elle est renouvelée par le Saint-Esprit, elle est puissante par le Saint-Esprit. Et la qualité de vie qui est là, à l'intérieur de l'Église, nous dit Acte 9, 31, l'Église était en paix. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui donne une qualité de vie. L'Église était en paix, qualité de vie de l'Esprit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, l'Église de Jésus, bien qu'Église de Jésus, si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle est pauvre, elle est faible, elle est vulnérable, elle est en danger. J'ai besoin, nous avons besoin, tant sur le plan personnel que collectif, nous avons besoin de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Et ce qu'on peut comprendre, c'est biblique dans plein de textes, rien ne s'est jamais fait sans la personne du Saint-Esprit. Je vous l'ai montré dans le troisième message, les œuvres de l'Esprit depuis la création jusqu'à la fin des temps. Regardez, le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout. On n'est rien sans lui, on ne vit rien sans lui, on ne fait rien sans lui, on ne va nulle part sans lui. Ah, on peut faire des programmes, on peut organiser des réunions, on peut essayer d'être innovant, on peut faire des tas de choses, mais spirituellement parlant, ça ne produit rien. On n'est rien sans lui. Et quand l'Église a cette prise de conscience, c'est déjà énorme. Pierre et ceux qui étaient avec lui sont montés dans la chambre haute. Ils ont déjà eu cette prise de conscience. Ils ont réalisé que sans le Saint-Esprit, ça n'allait pas le faire. Et ça a été un élément déclencheur pour la suite de l'œuvre de Jésus et de l'enseignement au travers de leur vie. Demander, c'est une façon de reconnaître que nous n'y arriverons pas sans lui. Demander, c'est une façon de capituler. C'est une façon de rendre les armes. C'est une façon de renoncer à nous-mêmes. Il faut de l'humilité pour monter à la chambre haute. Il faut de l'humilité. Monter à la chambre haute, c'est reconnaître que je ne suis rien et que l'esprit est tout. Monter à la chambre haute, c'est reconnaître que je ne peux rien, mais que lui va me rendre capable. Monter à la chambre haute, c'est admettre que je ne suis pas meilleur que les autres. Puisque j'ai besoin de la même grâce et du même esprit qu'eux. Monter à la chambre haute avec Jean. Pour Pierre, c'était une façon de dire à Dieu, « Seigneur, je sais maintenant que je ne vaux pas mieux que lui et que je ne ferai pas mieux que lui si tu ne me remplis pas. » Demander, c'est aussi entrer dans la volonté de Dieu. C'est accorder notre volonté. Pourquoi est-ce que je dois demander? Parce que alors que je demande, j'accorde ma volonté à la sienne. Je deviens acteur, je deviens participant de ses promesses. Dieu ne veut pas faire de toi un assisté. Il pourvoit à tout, mais il veut que dans mon cœur, il y ait cette détermination. Dieu ne veut pas faire de moi un assisté. Il ne veut pas que je sois attentiste. Il faut que je me secoue, pardonnez-moi l'expression. Il faut que je me batte, il faut que je me mette dans la promesse, il faut que je m'investisse. C'est ma foi, ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes. Peu importe comment tu vas t'y mettre, je t'en supplie, mets-toi dedans. Connecte-toi, branche-toi, mets-toi dans la promesse. Montre à Dieu, c'est aussi demander, c'est aussi une façon de démontrer sa foi. C'est de démontrer que tu y crois. Et comment ils ont démontré les disciples? Ils ont mis du temps à part. Ah, parce que ça prend du temps de chercher le Saint-Esprit. Ben oui, ça prend du temps. Il faut qu'on fasse le compte, là, vite fait, bien fait, de tout le temps qu'on passe à des choses qui n'en valent pas la peine. Quand on veut, des fois, on dit tout le temps, « Ah ouais, mais j'ai pas le temps. » Si. Le temps, c'est la seule chose que tu as. Ne te leurre pas. Le temps, c'est la seule chose que tu as. Mais ça se gère. Le temps est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Quand j'étais dans cette période où j'avais vraiment soif d'être rempli du Saint-Esprit, je commençais à chercher Dieu quand j'avais du temps, quand je pouvais. Si j'avais du temps le matin, c'était le matin. Si c'était le midi, c'était le midi. Si c'était le soir, c'était le soir. L'après-midi, la nuit. Quand je pouvais, quand j'avais du temps, je cherchais. Et puis au fur et à mesure que je voyais qu'il fallait que je mette un peu plus de moi-même, je sentais que Dieu m'attendait sur certains domaines. Et j'ai commencé à voir mon chef. J'étais dans la police à cette époque. Je lui dis, Major, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des jours de congé? J'avais pris Dieu au mot. J'avais dit, Seigneur, les disciples, ils ont entendu 10 jours dans la chambre haute. Pourquoi ce serait différent pour moi? Je dis, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Chérie, on peut remarquer. Non, je veux être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez une augmentation? Non, je veux être rempli. Tu veux une plus belle maison? Non, je veux être rempli. Tu veux que ta femme change? Non, je veux être rempli du Saint-Esprit. Mon patron, il m'a donné 10 jours de congé et j'ai commencé à chercher Dieu. C'est pas que Dieu m'aime plus ou que je sois meilleur ou que. C'est que j'ai démontré ma foi. D'accord? Demander, c'est une façon de mettre sa foi en action. Un jour, dans une église, j'ai rencontré une jeune. Alors, il ne faut pas avoir d'enfant, il ne faut pas avoir d'horaire de travail derrière. Elle est rentrée, elle était tellement désespérée de ne pas être remplie du Saint-Esprit. Elle est rentrée dans sa chambre un matin, elle a dit à Dieu, « Seigneur, je ne sortirai pas d'ici quand je ne serai pas remplie du Saint-Esprit. » Wow! Ben moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que là, tout de suite, tu te dis, si ça passe l'heure de midi, puis si on passe 15 heures, puis si on passe 19 heures, oh, Seigneur, et si je passe 22 heures? Et là, on se dit, mais après, on ne pense plus à ces choses-là. Il y a une détermination de cœur à ceux qui le lui demandent. Ah ben, je vous dire que dans l'après-midi, la fille, elle est ressortie, ce n'était plus la même. Peu importe comment tu vas te mettre dedans, mais mets-toi dedans, mets-toi dans la promesse, investis-toi d'une façon ou d'une autre. Démontre que le Saint-Esprit, que la promesse de Jésus a de la valeur pour toi. Oui, on met du temps à part, oui, aménage ton emploi du temps, aménage ton temps, fixe les vraies priorités et montre à Dieu de cette façon-là, il ne t'aimera pas plus. Mais tu vas lui montrer à quel point tu le prends au sérieux. Dieu, il me prend très au sérieux. Il prend ma vie et mon avenir très au sérieux. Et il aimerait que je puisse le prendre au sérieux. Que ce qu'il me dit, je le prenne réellement au sérieux. Autant que lui, il me prend au sérieux. Alors si je suis capable de remuer ciel et terre pour avoir un crédit de maison, pour chercher un terrain, pour construire une maison, pour chercher la meilleure assurance sur le Lynx, pour chercher ceci, pour chercher cela, et passer des heures sur Internet pour essayer de trouver des choses qui vont me détendre alors qu'en fait elles sont en train de m'accaparer. Quand j'ai remué ciel et terre pour tout ça, je peux pas remuer ciel et terre pour chercher Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Demandez... C'est reconnaître notre état de faiblesse. Demander, c'est une façon de capituler devant lui. Demander, c'est entrer dans sa volonté. Demander, c'est une façon de mettre sa foi en action. Oui, j'y crois. Si je te le demande, Seigneur, c'est parce que je crois à ta promesse. Je ne veux plus être méfiant. Je ne veux plus être négligent. Je ne veux plus être indifférent. Je ne veux plus être suffisant. Et c'est indispensable de croire et de s'attendre à cette dimension de vie avec l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de le vivre une fois. C'est une façon de vivre. Et Jésus n'a pas promis une expérience. Jésus a promis même pas un fleuve. Attends, un fleuve, c'est déjà pas mal. Jésus a promis des fleuves. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de ceux qui croiraient en lui. Celui qui croit, c'est une façon de mettre sa foi en action. Jésus a jamais dit celui qui rationalise, celui qui analyse, celui qui comprend tout. Dans quelques jours, je vais fêter le 12e anniversaire de cette rencontre merveilleuse avec le Saint-Esprit. Je ne comprends toujours pas comment on parle en langue. J'en sais rien. C'est un miracle. Est-ce que vous comprenez comment Dieu a créé les cieux et la terre ? Quelqu'un veut venir m'expliquer, là ? Oui. Merci, j'ai la même Bible que vous, frère. Je me suis fait avoir. C'est vrai. Mais concrètement, du néant, il dit la chose arrive. Vous voulez me faire un cours de... Vous voulez m'expliquer ? C'est impossible. Vous voulez m'expliquer comment Jésus a été conçu dans le sein de Marie ? Vous voulez m'expliquer tout ce qui se passe dans la parole, de la première à la dernière page, tout est une succession de miracles, d'un Dieu miraculeux et tout puissant. Eh bien, le parler en langue, c'est une œuvre miraculeuse dans le cœur de celui qui croit. Jésus dit encore en Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ils parleront de nouvelles langues. Paul dit aux Galates, c'est par la foi que le Saint-Esprit qui a été promis est reçu. Nous recevons par la foi. Oui, demander, ça peut paraître stupide, mais c'est une façon de mettre sa foi en action. Et non, ce n'est pas stupide, c'est totalement indispensable. Ensuite, il faut savoir persévérer. Entre croyez que vous l'avez reçu, ça c'est au ciel, ça c'est ce qui m'appartient. Dieu a tamponné, il a validé, comme sur le dossier de mon crédit maison, accepté. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a ce décalage entre ce qui existe dans le ciel et ce qui va ensuite prendre une réalité, une dimension concrète ici-bas. Et entre deux, il y a quoi ? Entre deux, il y a la parabole des trois amis. Entre deux, il y a la persévérance. Parfois, il y a quelques exemples, je ne m'étends pas là-dessus. Oui, il y a quelques exemples dans l'Écriture où le Saint-Esprit a été donné immédiatement à la première demande. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a ma persévérance. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils ont demandé une fois, c'est fini, ça suffit, puis après c'est à Dieu de faire son boulot. Et ils disent, moi j'ai demandé, si je redemande, je vais être incrédule. Si tu arrêtes de demander, ça s'appelle de la paresse spirituelle. Et persévérer, ce n'est pas de l'incrédulité. Persévérer, c'est une façon de démontrer sa foi. La foi, par nature, est persévérante. La foi, par nature, elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'à l'exaucement. Alors il y a des moments, oui, où Dieu peut répondre immédiatement, mais regardez les disciples dans la chambre haute, je sais de, pour ma propre expérience, pour tant d'autres, les disciples ont attendu conformément à l'ordre de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Les disciples, ils avaient cette attente active, ils priaient, ils cherchaient, ils demandaient, ils louaient, ils persévéraient parce qu'ils savaient que dans le ciel c'était oui, ok, et qu'entre deux, il fallait un trait d'union qui s'appelle persévérance. Persévérance. Dieu t'a pas répondu tout de suite ? Des fois, des gens me disent « Ah oui, moi je me souviens, j'ai demandé au Seigneur, je me souviens très bien, oui, c'était le 24 septembre 2002, j'ai demandé au Seigneur, il ne s'est rien passé. » Mais si tu avais persévéré, ce serait réglé depuis longtemps. Insiste, il ne t'a pas répondu. Insiste, persévère, secoue-toi, sors de ta torpeur, sors de ta léthargie, montre ta détermination, sois un violent spirituel, sors de ton indolence, de ton apathie. Et quand Dieu ne répond pas tout de suite, demandez, vous recevrez. Ah, j'ai pas reçu. Ben oui, il y a l'étape suivante. Trois verbes qui sont en réalité trois étapes dans la persévérance. Demandez. Ensuite, il y a chercher. C'est un petit peu plus que demander, hein. Vous avez déjà cherché vos clés de voiture ? Moi, j'arrête de chercher mes clés de voiture. Je demande à ma femme où elles sont. Elle sait toujours où sont mes clés de voiture. C'est extraordinaire. Il y a d'autres, leur mari leur a fait le coup aussi. Je ne cherche plus mes clés. Et des fois, ma femme, elle me dit « Hey, c'est bon, cherche. » Parce qu'entre demander et chercher, il y a quand même un sacré... Et après, il y a l'étape supérieure. Oui, j'ai cherché. Mais après, il y a frapper. Et là, on a l'exemple de cet ami qui va jusqu'à l'importunité. Cet ami qui est tenace, qui est comme un pitbull de la foi, qui ne veut rien lâcher, qui dit « Non, c'est pour moi, la promesse, elle est pour moi. Seigneur, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Je veux aller jusqu'à l'exaucement, je veux aller jusqu'au bout. » Mais ce genre d'attitude intérieure, cette niaque, parce que c'est de la niaque, ça sort de mes tripes, ça ne sort pas de ma tête, ce genre d'attitude... Mais ça glorifie Dieu, parce que Dieu voit à quel point vous le prenez au sérieux. Ma persévérance démontre aussi la valeur que j'accorde aux choses de Dieu. Ma persévérance démontre la valeur que j'accorde aux choses du royaume. Si vous allez un jour dans un restaurant que vous aimez bien, et malheureusement vous arrivez devant la porte de ce restaurant, et le restaurant, il est fermé ce jour-là. Vous faites quoi ? Ben oui, je vais en chercher un autre. J'ai jamais vu quelqu'un, le jour de fermeture du restaurant, dire « Ah non, ah, c'est hors de question, il ne m'a pas répondu et moi je vais taper à la porte du restaurant jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre, c'est hors de question, je veux, c'est à moi, c'est mon restaurant, c'est pour moi, je veux ce menu-là. » Et je. Si quelqu'un faisait ça, vous diriez « Eh oh, ah, pas bien, ça n'en vaut pas la peine. » Ce restaurant ne vaut pas un tel déploiement d'énergie, j'irai manger un autre jour. Vous voyez le problème dans notre attitude avec Dieu ? C'est que lorsqu'on a demandé que le Seigneur n'a pas dit oui tout de suite, on a dit « Oh, je m'en passerai, je vais aller chercher ailleurs. Oh ben, c'est peut-être pas si important. Ah ben, c'était peut-être pas pour moi. Ah ben, ah ben, ah ben. » Et là, dans ce cas-là, dans la dimension de la vie de l'esprit, c'est là qu'il faut persévérer. C'est là que j'ai le droit de frapper jusqu'à ce que la porte me soit ouverte. Et quand je fais ça, Dieu ne m'aime pas plus. Il ne peut pas m'aimer plus. Il m'aime au maximum depuis la croix, même avant. Mais quand je fais ça, je démontre à Dieu quelle est la valeur de son esprit pour moi. Je démontre par ma persévérance, je démontre à Dieu quelle est la valeur de ses promesses pour moi. On verra aussi plus tard, je termine, que c'est une façon de vivre en général toute la vie de l'esprit. On retrouve une pensée similaire lorsque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirez aux dons les meilleurs. Le mot « aspirer » en grec, dans cette... Dans ce passage de 1 Corinthiens 14, ce mot signifie littéralement « brûler avec ardeur, poursuivez, s'occuper sérieusement d'eux, Paul dit aux Corinthiens, brûlez avec ardeur pour les communications de l'Esprit, surtout pour celles de la prophétie. Il dit, occupez-vous sérieusement des dons de l'Esprit. Il dit, poursuivez, là il n'a même pas dit chercher, il a dit poursuivez. C'est mon attitude de cœur avec Dieu, c'est mon attitude de cœur tout au long de ma vie avec lui, cette persévérance, cette importunité, ce jusqu'au boutisme, cette façon d'être, cette niaque, cette hardiesse, cette détermination. Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Quand Jésus dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent, c'est à ça que Jésus est en train de penser. Puisque en arrière-plan, il y a cette parabole de cet homme qui va aller jusqu'au bout, qui ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Parce que cette persévérance, cette attitude de cœur, elle honore Dieu, elle lui démontre à quel point je le prends au sérieux quand il me fait une promesse. Amen. On se recueille, on prie ensemble.